pour ne pas. Et nous voulons bénir celui qui est la source de nos vies, dans les bons comme dans les jours d'épreuve. Lui, il est fidèle, toujours présent avec nous. Nous sommes au bénéfice de sa grâce en Jésus-Christ. J'aimerais continuer avec vous ce thème sur la sanctification. Continuer de nous encourager à regarder cet aspect important de notre marche chrétienne. Et nous allons le faire ce matin en replongeant nos regards dans un texte de l'Ancien Testament, une interpellation, un réveil, une invitation à la vigilance de la part du prophète Malachie. C'est la suite du message que j'avais déjà introduit le 14 novembre. Et nous avions terminé ce message du 14 novembre avec ce texte du Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, où l'apôtre disait de la part de Dieu, « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. » Nous avons donc terminé avec cette exhortation, cet encouragement. Et nous voulons aujourd'hui encore faire ce chemin. Je veux faire ce chemin avec vous dans la parole de Dieu pour nous inviter justement à ne pas perdre cette solide position que Dieu nous donne en tant que chrétien et chrétienne. Vas-y, Aurélien. Et je vous avais invité tout au long de ce parcours sur la sanctification à rester vigilant par rapport à cette période dans laquelle nous avons, je le conjugue peut-être au passé, mais peut-être un peu trop tôt, dans la période dans laquelle nous vivons encore. Il semble que nous sommes en plein dans une cinquième vague, même si elle n'est pas aussi haute comme les autres, mais quand même. Et je nous avais invité à réfléchir sur le sens de ce que nous avons vécu, ou sur le sens de ce que nous vivons encore. Dieu intervient dans le monde pas par hasard. Dieu intervient dans le monde pour nous parler. Et je vous avais fait remarquer que quand même, le monde s'est arrêté. C'est pas comme si un petit village de la Bretagne s'était arrêté. C'est pas comme si un petit village perdu à 8000 kilomètres en Afrique s'était arrêté. Le monde entier s'est arrêté. Il faut quand même qu'on se rappelle ça. Même si on a l'impression que c'était avant-avant-hier, non, c'était hier seulement. Et que même nous, nous avons repris un semblant de vie qu'à la fin du printemps dernier. Mais si nous ne nous posons pas les questions, alors que nous sommes en train de finir cette année 2021, avec ces quelques indications qui ne sont pas de la parole de Dieu, mais que j'estime qui peuvent nous aider dans cette réflexion, quel est le sens de ce que Dieu a laissé vivre le monde depuis 2 ans bientôt? Quel est le sens pour l'Église? Quel est le sens pour le chrétien, la chrétienne que je suis, que tu es? Qu'est-ce que ça va changer? Ou qu'est-ce que ça a commencé à changer? Dans ma vie, dans mon service pour Dieu et dans le monde. Vas-y. En tant que chrétiens, nous vivons dans un monde réel, n'est-ce pas? Et nous sommes confrontés avec des problèmes réels qui ne trouveront pas de solution dans une liste d'interdictions ou de recommandations, mais dans la parole de Dieu, dans la Bible. La Bible est notre guide absolu dans tous les domaines de la vie. Parfois, on nous trouve des commandements, bien sûr, directs tels que tu ne commettras pas le vol ou rejeter le mensonge, etc. Pour d'autres problèmes de la vie, il y a des principes à rechercher et à appliquer afin de mener une vie sanctifiée. La sanctification, tout en ayant un point de départ, est aussi un développement, une croissance pour celui qui est né de nouveau. La sanctification est le cours normal de la vie chrétienne. Et nous avions vu que sanctifier, c'est mettre à part pour Dieu. Nous sommes le peuple racheté. Et l'Église, dans son étymologie, en tout cas une de ses définitions, c'est tous ceux qui ont été rachetés pour Dieu et qui ont été réunis ensemble. C'est le rassemblement de tous les filles et tous les fils de Dieu qui s'est racheté par le prix de l'agneau. Et nous avions aussi vu que sanctifier, c'est finalement être saint. Et que être saint n'est pas une vertu qu'on peut nous accorder par canonification ou par béatitude. C'est quelque chose que Christ nous accorde. Dès le moment où nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes et que nous crions au secours à Dieu et que nous ouvrons notre cœur et que nous laissons Christ rentrer dans notre vie et que Christ nous fait naître à nouveau, la Bible dit, que nous avons une position de saint. Et que cette position-là, elle est liée à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Je suis saint parce que Christ m'a racheté et qu'il m'a octroyé sa sanctification. Ça s'appelle une sanctification de position. Et c'est pour cela que les chrétiens nés de nouveau peuvent chanter « Oui, j'ai la certitude de mon salut. » Parce que cette certitude-là n'est pas liée à mes œuvres, n'est pas liée à mes défaillances. Elle est liée à l'œuvre accomplie une fois pour toutes de Jésus-Christ. Fils de Dieu, qui a vécu avec puissance sans péché, qui est mort, innocent qu'il était, accusé à tort, mais parce qu'il portait nos péchés, la mort n'a pas pu raison de lui. Il est ressuscité le troisième jour, il est vivant, il est monté au ciel, il intercède pour nous. Il nous a octroyé la grâce de vivre avec la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, et il reviendra nous chercher. C'est ça qui fait de nous des saints. Et je vous ai montré au travers du texte biblique que l'apôtre Paul, en s'adressant aux églises locales, appelait ses frères et ses sœurs, ses chrétiens, ses chrétiennes, les saints qui sont à Éphèse. C'est une sanctification de position, c'est Christ qui nous l'accorde. Et la Bible dit, puisque vous êtes des enfants de ce Dieu saint, vivez de telle façon que cette nature soit manifesté dans votre quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans ce que nous allons voir, vas-y, s'il te plaît, nous allons nous rendre compte que ce peuple de Dieu, qui était aussi invité à cette sanctification, l'a-t-il vécu comme Dieu attendait de lui? Quelle leçon pouvons-nous en tirer? Alors, je vous invite à lire avec moi Malachie, chapitre 1, versets 1 à 14. Je vais afficher le texte. Donc, le titre qui conduit tout ce chapitre, tous ces 14 versets, c'est la dénonciation des fautes. Cette dénonciation visait à parler à tout le peuple d'Israël de l'époque, qui était complice d'un certain laisser-aller dans le culte, et aussi ceux qui servaient ce culte-là, les prêtres. Si quelqu'un veut bien faire la lecture avec nous, le texte va être affiché. Si quelqu'un veut bien lire avec nous, c'est tout petit, mais la personne peut s'approcher par ici. Pour lire. C'est la même version? C'est bien? Vas-y alors, je pense que c'est la même version.
Parole de l'Éternel à Israël en Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dit, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté. peuple contre lequel l'Éternel lutte pour toujours. Vos yeux le verront. Et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me tue? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisante. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Offre-la donc, pardon, à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil de l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'alliez pas en vain de feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites quelle fatigue et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations.
Amen. Ce prophète a été suscité en Israël alors que le peuple était revenu de l'exil et que ni le peuple, ni les serviteurs qui étaient les prêtres et qui servaient au temple n'avaient conscience qu'ils avaient baissé dans leur sanctification par rapport au projet de Dieu pour eux. Ils étaient plus conscients de la bassesse dans laquelle ils étaient tombés. Nous allons le voir dans le texte, parce que ce qui est décrit par le prophète est grave. Puis on a le sentiment qu'ils n'étaient même pas conscients de la gravité, non seulement dans le service au culte, mais dans leur relation à Dieu. Et Dieu est obligé de susciter un prophète, Malachie, dont le nom veut dire messager de Dieu, pour s'adresser à ce peuple-là. Malachie commence dans cette première oracle à rappeler que Dieu s'est lié d'amour pour Israël. Il dit, n'est-ce pas, que Jacob et Ésaü étaient des jumeaux? Ils sont nés de la même mère. Sont des jumeaux. Il dit, et pourtant, mon choix s'est porté sur Jacob, que j'ai fini par nommer Israël, et son frère Ésaü, à cause de quelque chose qui n'était pas sain en lui, je l'ai mis à l'écart. Et la vie d'Ésaü va montrer effectivement que malheureusement, un peu comme Caïn et Abel, Ésaü avait un cœur. Et que les descendants des Aïs vont aussi, qui s'appellent les Édomites, vont avoir aussi une histoire compliquée. Il dit pourtant, c'est pas que Israël, donc c'est pas que Jacob était mieux que les Aïs. Et la démonstration de la descendance d'Israël a montré que vous n'étiez pas mieux. Et pourtant, je vous ai aimé. Et pourtant, je vous ai porté. Et pourtant, je vous ai chéri. Et dans cette première oracle, il dit, vous dites, je suis votre père, mais vous n'avez pas la relation qu'un fils devrait avoir avec un père. Vous ne m'honorez pas comme un père. Vous ne m'honorez plus comme un père. Vous dites, je suis votre maître, mais votre service, il laisse à désirer, parce que vous ne me servez plus comme si j'étais votre maître. Et le peuple dit, mais quand avons-nous fait tout ça? Et le prophète va donner des détails. verset 7, verset 8, verset 11, verset 12, il va dire des choses importantes. Il dit, vous dédaignez, vous souillez ce que vous offrez au temple est de moindre qualité. Ce sont des bêtes qui sont des bêtes souillées, des victimes malades, boiteuses, dérobées. Et le prêtre, les prêtres sont complices avec les fidèles devant une telle action qui n'est pas la gloire de Dieu. Les textes que Dieu avait donnés lors de l'alliance avec le peuple d'Israël érigeaient les détails pour offrir son offrande au temple. Je vous l'avais dit, je vous le rappelle, il faut vous souvenir que ce qu'on appelle cette dispensation, cette façon de fonctionner religieusement à l'époque était très importante pour le peuple. C'était la seule façon qu'un juif avait pour voir son péché pardonné. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce de Dieu et nous réalisons pas la profondeur de la grâce. L'apôtre Jean dit que si nous péchons, nous devons rentrer dans notre intimité avec Dieu, regretter ce péché et demander pardon dans cette intimité avec Dieu. Et Dieu nous pardonne alors que nous sommes en présence de personne d'autre que lui. À l'époque, c'était pas le cas. Un juif pouvait bien rester dans sa chambre, demander pardon à Dieu. Son péché n'était pas pardonné. Il fallait que, en fonction du type de péché, qu'il offre le sacrifice qui était lié à ce type de péché, qu'il aille au temple avec la bête qui était liée à ce type de péché, que le prêtre prenne cette bête, l'examine si la bête était conforme à la prescription de la loi, qu'il fasse le rite religieux avec cette bête et qu'ensuite il prononce au nom de Dieu le pardon du fidèle. Et c'est qu'à ce moment-là seulement que le péché du juif de l'Israël était pardonné. Qu'à ce moment-là seulement. D'où l'importance que le rite soit conforme à la loi. S'il n'était pas conforme, le sacrifice ne servait à rien. Et c'est ce qui se passe malheureusement à cette époque. Il dit, les prêtres et les fidèles, vous connaissez la loi, mais vous faites autrement. Des animaux qui ne sont pas de qualité, qui ne respectent aucune exigence de la loi que je vous ai prescrite. Des animaux malades, aveugles, boiteux. Voilà ce que vous venez offrir pour que je vous pardonne le péché. Pourquoi Dieu exigeait que ce soit des animaux d'une certaine qualité? C'était en préfiguration de Jésus. Le péché coûte une vie de qualité. Le péché, Dieu, au travers de ses sacrifices sanglants, montrait à son peuple pédagogiquement que le péché coûte cher. Donc, mieux vaut s'abstenir de péché, parce que le péché coûte la vie d'un animal. En plus d'un animal d'une certaine qualité. C'est pas un animal boiteux qu'on se dit, OK, celui-là, bon, on le passe vite fait, parce que de toutes les façons, il va trépasser bientôt. Non. Il y a un animal qui a encore de la vie. Pour que l'Israël prenne conscience que son péché va coûter la vie à un animal qui a encore de la vie devant lui. En préfiguration de Christ qui lui a été donné sans péché. Le sacrifice parfait, l'agneau parfait, sans péché. Celui qui n'avait pas péché, il a fait de lui péché à cause du péché de l'humanité. Et chaque année, le grand prêtre faisait ce qu'on appelle au grand jour de l'expiation, le Yom Kippour. Il prenait un bouc d'une certaine qualité. Il étendait sa main sur ce bouc, il faisait une prière et symboliquement, le péché du peuple était transféré à ce bouc et on libérait ce bouc pour que ce bouc aille dans le désert et qu'il emportait le péché du peuple une fois par fois. Tout ça, c'était la symbolique. Et il dit, ce que vous faites là, pendant cette période, c'est terrible. Vous passez totalement à côté. Ça veut dire que tous les sacrifices qui sont faits depuis cette période, avant que le prophète ne se lève pour crier, n'étaient pas agréés de Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui croyaient que leur péché était pardonné, en fait, leur péché n'était pas pardonné. Ils étaient dans l'illusion d'un péché pardonné qui était plutôt accumulé, donc qui n'était plus en bonne odeur à Dieu. Et Dieu dit, je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Verset 10. Il dit, qui enfin parmi vous se décidera à fermer les portes de mon temple pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur l'autel? Parce que tous ces sacrifices-là, c'est des sacrifices de mauvaise odeur. Je ne les reçois pas. Donc, toutes les paroles que les prêtres sont en train de prononcer en disant ton péché t'est pardonné, c'est faux. Je n'entends même plus ces prières. Je ne les écoute plus parce qu'elles ne sont pas conformes à ma parole. Il dit pire, pire. Il y en a qui font un vœu à l'Éternel, disent vraiment, Seigneur, je fais un vœu. Si tu me bénis, si tu le réalises, je t'offrirai une bête vraiment de qualité. Et il dit, verset 14, maudit soit le tricheur qui, dans son troupeau, qui a dans son troupeau un beau mouton, un mâle, et le promet par vœu, puis qui offre au Seigneur une bête tarée. Une bête tarée. Ça veut dire une bête qu'on a récupérée. Une bête qui a été mutilée, qui a été arrachée aux griffes d'une fauve. Une bête qui est impropre même à la consommation profane et domestique. Elle est bonne seulement à être jetée au champ. C'est ce type de bête-là que la personne qui avait dit « Seigneur, je t'offrirai un bon mouton. » Ce n'est pas ce mouton qu'il offre. Il offre cette bête qui a été amochée par le feu, que même eux ne peuvent pas manger. Il va l'offrir dans le temple de Dieu. Il dit, voilà ce que vous faites en Israël. Wow. Il semble, en tout cas tous les experts qui regardent le temps où Malachie a prophétisé, on dit en Israël, on n'avait jamais vu une telle bassesse dans le service au temple. Alors que le temple venait d'être restauré, alors que le peuple venait d'être ramené par Dieu de l'exil, alors que Néhémie avait suscité le peuple entier pour rebâtir la muraille de Jérusalem, pour protéger cette ville. Alors que sous Zorobabel et sous Ezra, le temple avait été reconstruit. Et que la loi avait été prononcée, que le peuple commençait à être encore enseigné dans la parole de Dieu. Comment s'en est-il que le peuple fasse ça? Et le prophète dit quand même, ah là là, il dit même, vous en tant qu'être humain, de telles bêtes, vous n'allez même pas songer une seconde à l'offrir à une autorité politique. Jusqu'à la même période, on offre aussi, en termes de taxes et d'impôts, des animaux aux autorités politiques. Et le prophète dit, est-ce que ça peut vous traverser l'idée de prendre une bête amochée, une bête qui a été presque salement amochée par une faute, de prendre une telle bête et de dire, je vais l'offrir à mon gouverneur. C'est comme si nous devions, le 1er janvier, aller offrir quelque chose au président Macron, par exemple. Et que nous prenions quelque chose de tout à fait vil et que nous nous présentions au palais de l'Élysée. Nous n'allons même pas franchir la porte d'entrée. Est-ce que la sécurité ne va même pas nous laisser rentrer avec un tel cadeau? Mais même c'est un risque que nous n'allons même pas prendre de toutes les façons. C'est quelque chose qui ne va même pas nous passer par l'esprit de le faire. Il dit, et pourtant, c'est ce que vous faites avec le grand roi. À la fin du verset 14, il dit, car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Regardez dans ce texte combien de fois le Seigneur articule son titre. Verset 10, le Seigneur des armées célestes. Verset 11, le Seigneur des armées célestes. Verset 14, le Seigneur des armées célestes. Pourquoi il fait ça? Pour rappeler à Israël qui il est. Il dit, je suis au-dessus de tous les rois. Je suis le Dieu créateur. Je suis le Tout-Puissant. J'ai créé cet univers connu. Il y a 8 planètes qu'on appelle un des systèmes solaires. Je suis le maître de tout l'univers que nous ne connaissons pas en tant qu'humain. Et pourtant, vous me traitez comme cela. Et pourtant, je vous aime et je me suis rabaissé jusqu'à vous. Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Jésus a commencé son ministère, il dit en Luc chapitre 4, car le royaume de Dieu s'est approché. C'est de lui qu'il parle. Il dit, Dieu est venu comme l'un d'entre vous. Dieu s'est abaissé jusqu'à vous. En Jean chapitre 1er, il dit, celui qui était Dieu, celui qui était avec Dieu, a été fait chair. Il est rentré dans le monde. Il est venu parmi les siens. Mais les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reconnu, à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une action de la chair ni du sang, mais c'est une action de l'Esprit de Dieu. En Jésus-Christ. Ce Dieu-là, il s'est approché. Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'Israël fait? Israël fait ce qu'il fait. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre comme quand nous ne connaissions pas Dieu. Quand nous nous donnons à Dieu et que Dieu se révèle à nous, nous avons ce privilège de vivre autrement, de vivre selon la parole de Dieu. En Romains chapitre 6, verset 2, il est écrit, que dit maintenant, persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là! Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Souvenez-vous que nous tous qui sommes convertis, qui sommes passés par les eaux du baptême, nous avons acté qu'en nous plongeant sous l'eau, nous mourions au péché, et quand nous sortons de l'eau, nous vivions pour Dieu. Que désormais, Dieu, nous confirmions que Dieu nous donne toute la force nécessaire pour nous battre contre le péché, pour lutter contre le péché. C'est pas toujours facile. Il faut être honnête. Mais nous avons désormais cette force par le Saint-Esprit de dominer sur le péché. En tout cas, le plus de fois possible. Et que même quand nous tombons, il est fidèle et juste pour nous relever. Quelqu'un dit, le plus dur, c'est pas de tomber. Quand nous allons tous de tomber. Le plus dur, c'est de rester tombé. C'est de rester couché. Alors que Dieu, il te tend la main. Il lève-toi. Alors que Dieu, il te tend la main. Il lève-toi. Et toi, tu laisses coucher. Non, Dieu est là, fidèle. Toujours la main tendue. Pour te relever. En Philippiens, chapitre 2, verset 15, il est dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération de gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel en leur présentant le message de vie. Ce message est en nous. Nous sommes une lettre ouverte de Christ. Nous sommes des enfants de Dieu et notre vie doit le manifester. Progressivement, en avançant, en progressant, en grandissant, en croissant. Notre vie biologique nous montre bien que nous sommes dans la croissance. Il y a une petite quarantaine d'années, j'étais un bébé. 40 ans passés et des poussières plus tard, je ne suis plus un bébé. Je suis un adulte que la vie a aidé à maturer. Il en est de même dans la foi chrétienne. Nous sommes d'abord des bébés, allaités au lait de la parole, mais Dieu nous invite à grandir, à maturer, à passer de l'état de bébé par l'étape d'enfant, l'étape d'adolescent, l'étape de jeune, l'étape d'adulte. Et avec Dieu, on ne vieillit pas dans la foi. On reste toujours des adultes dans la foi. Puisque cette foi, elle est là pour l'éternité. Elle est là pour l'éternité. C'est pour ça que la Bible dit que nous marchons pour ressembler à la statue parfaite de Christ. Nous sommes dans ce progrès-là, bien-aimés. L'apôtre Paul dira dans Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14, « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Amen. Amen. On ne peut pas dire que c'est une course. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. Le tout, c'est d'arriver. Chacun selon son rythme, mais avec la garantie qu'il y a quelqu'un qui court à côté de nous. Il s'appelle Jésus. Si vous voulez une image, c'est l'image des sportifs handicapés qui font du marathon. Ils ont quelqu'un qu'on appelle, si je ne me trompe pas, le lièvre. Donc, quelqu'un qui voit et qui le tient et qui ne court pas pour lui. C'est l'handicapé qui court, mais celui qui le tient, c'est pour lui éviter les obstacles. Et celui qui le tient doit être aussi performant. Il doit avoir à peu près la même performance que l'handicapé pour l'aider à éviter les obstacles et à rester dans son rayon de course. Si cette image perdait, c'est ce que Jésus fait avec nous. Car sur le chemin de la vie, nous sommes des handicapés par rapport au péché. Et lui, il n'est pas handicapé par rapport au péché. Et lui, il nous tient. Et coup à coup, il s'adapte à notre rythme de course. La Bible dit qu'il connaît chacun de nous et qu'il s'approche de chacun de nous selon notre profil, selon notre personnalité, pour nous aider chacun à maturer, à nous sanctifier. Lorsque le Seigneur reviendra, notre sanctification s'achèvera, bien sûr. Mais pour l'instant, n'oublions pas que la chair est faible, mais que l'esprit est bien disposé. Donc, appuyons-nous sur cet esprit renouvelé par Dieu pour faire les efforts qui sont les nôtres. Christ a fait sa part et nous invite aussi, pour notre bien à nous-mêmes, pour le bien de ceux que nous aimons, à marcher dans cette sanctification, à être avertis parce que nous lisons dans ce texte de Malachie, parce qu'ils n'ont plus été vigilants, parce qu'ils ont perdu de vue la sanctification et se sont trouvés dans cette situation que Dieu déplore, que Dieu punit. L'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3, il disait, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance seront eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Tous ceux qui ont une telle espérance de voir Jésus seront eux-mêmes purs. Continuons notre itinéraire dans cette invitation du prophète Malachie. Nous allons lire le chapitre 2, les versets 1 à 9. Tu peux afficher le texte, s'il te plaît. Et le thème qui conduit ce thème, c'est il consacre maintenant sa dénonciation sur les prêts et leur vie morale et leur responsabilité pédagogique. Il va indexer les autorités religieuses de l'époque dans leur responsabilité par rapport à être des exemples, des guides, des leaders pour le peuple de Dieu. Vas-y. Voilà. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais les malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes, et puis l'on vous emportera au dehors avec eux. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, déclare le Seigneur des armées célestes. J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je lui ai donné pour qu'il me révèle et il m'a révélé. Il tremblait devant moi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. Car le prêtre doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est le messager du Seigneur des armées célestes. Mais vous, vous vous êtes écartés du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance avec Lévi, déclare le Seigneur des armées célestes. Alors, de mon côté, je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple, puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions. Ceux qui étaient censés conduire le peuple n'avaient pas eux-mêmes une vie de qualité, n'avaient pas la pédagogie, alors que Dieu leur avait donné toutes ces instructions, ils avaient été formés. Un lévite, un prêtre, on le forme à partir un peu plus jeune et il rentre en service à 20 ans sous David. Donc, il est instruit dans tout le rituel qui est lié au temple. Il est inscrit aussi dans la loi, puisqu'il doit être un enseignant. Et dit, cette alliance-là, je l'ai scellée avec Lévi, hein, la tribu de Lévi, ceux qui ont été mis à part pour servir au temple. Les sacrificateurs, les ministres attitrés du culte qui officient à l'autel et qui accomplissent un certain nombre de rites au compte de la communauté. Les Lévites, c'est cette tribu d'Israël que Dieu a dit, vous, je vous mets à part pour que vous serviez vos frères, pour que vous soyez au service du temple, pour que eux, ils aient pas d'autres charges, mais vous, vous êtes consacrés à ce service-là pour eux. Et c'est lors de l'appel au Sinaï à former une nation organisée que Dieu s'est suscité ce corps sacerdotal, avec Aaron, bien sûr, le frère de Moïse, descendant de Lévi. Trois devoirs essentiels du prêtre. Servir le Seigneur dans le sanctuaire, enseigner la loi au peuple, consulter l'Éternel pour le peuple au moyen de deux outils qu'on appelle l'Ourim et le Tumim. L'Ourim et le Tumim. C'était ça leur rôle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ce rôle? Ils sont passés à côté, sur cette période-là. Et Dieu rappelle que ceux qui étaient avant eux, en tout cas pour la grande majorité, ils ont été fidèles. Ils étaient fiers de ces serviteurs de Dieu-là. Ils rappellent que ceux-là, ils révéraient Dieu, ils enseignaient la parole, ils étaient conformes, il n'y avait aucune fausseté, ils étaient dans la saine doctrine, dans la bonne doctrine, ils proclamaient des choses vraies et ils aidaient le peuple à échapper au péché. Il dit, car ceux des anciens ont aidé beaucoup de gens à échapper au péché. Beaucoup de gens échappent au péché. Et ils marchaient en paix et en droiture avec moi. Il dit, mais vous, les prêtres, à l'époque de Malachi, vous êtes écartés du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements sur Internet. Il y a tellement de gens qui se font enseignants. Parfois, j'en pleure quand j'écoute certains. Et quand je vois le nombre de gens, parce que c'est des vidéos, ils mettent en scène leurs vidéos, ils mettent en scène leur séminaire. Quand je vois le nombre de gens qui sont en face d'eux et quand j'entends ce qu'ils en savent, honnêtement, je ne suis pas leur juge, mais de la petite connaissance biblique que j'ai, je vois que c'est de très bons orateurs qui manipulent de beaux termes, qui savent dire les choses, mais que les tests qu'ils ont annoncés, ce n'est pas ce que le test. Ils ont fait dire au test tout ce qu'ils veulent. Et ça fait beau, puisqu'ils sont éloquents, puisqu'ils font ici. La puissance de la parole de Dieu n'est pas dans l'éloquence d'un prédicateur. La puissance de la parole de Dieu n'est pas dans le nombre de personnes qu'un prédicateur est capable d'attirer à lui. La puissance de la prédication, c'est est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole? Parce que ça, c'est l'expérience de ces faux prêtres. Ils avaient la parole. Et pourtant, Dieu dit, vous êtes écarté du chemin, vos enseignements conduisent beaucoup de gens dans le péché. Et pourtant, c'est la même parole qu'ils avaient. Nous avons un défi en tant que chrétiens, au moins deux. Nous avons le défi de l'exemplarité. C'est un mot qu'on n'aime pas. C'est un mot qui est en train d'être utilisé, à mon sens, à tort dans le milieu sociopolitique. Les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, on veut qu'ils soient niqués. Bref. Mais nous qui avons l'esprit de Dieu, nous avons la grâce de l'esprit pour aller vers cette exemplarité-là. Mais nous reviendrons sur cette question d'exemplarité dans les prochaines prédications. Nous avons aussi cette grâce de nous laisser transformer selon l'épître aux Romains chapitre 12. Et c'est là que je termine. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je vous indique quelques domaines de la vie pratique dans lesquels il faut être vigilant sur ces choses-là pour que nos vies restent conformes à la parole de Dieu. Bien-aimés, ces domaines, c'est le domaine qui est maintenant un peu trop vulgaire dans notre société, c'est le domaine de la sexualité. Le chrétien doit se démarquer de beaucoup de choses qu'on voit dans notre société sur la sexualité. Je suis choqué des fois quand je vois des choses. Choqué. Je l'ai déjà dit ici, je crois que même ils ont été choqués, cette publicité a été enlevée 2 jours après. Il y avait une publicité qu'on avait mise sur l'arrière des bus, des posters de femmes presque nues, sur les bus que nos enfants, voilà l'école les matins, vont emprunter. Quelle est cette société-là qui dit d'un côté, respectons la femme, et que de l'autre côté, jette la femme en pâture comme juste un objet sexuel? Quelle est cette société-là? Quelle est cette société-là? Nous avons le devoir d'honorer Dieu sur tout ce qui est gestion de la sexualité. Nous avons à honorer Dieu sur tout ce qui est gestion de notre vestimentaire. Oui, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. C'est pour ça justement qu'on dit c'est le moine qui passe, parce qu'il est habillé comme un moine. Bien aimé, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais quand même. Tout ce qui est mode, musical, artistique, là aussi, nous devons être vigilants. Dieu est le Dieu de la création. Gloire à Dieu, parce que tout ce qui est beau vient de Dieu, que ce soit chrétien ou pas. Mais nous avons besoin de discernement. Il y a des musiques qui sont tellement belles, mais les paroles sont perverses. Qu'est-ce que je vais faire avec une musique comme ça? Le son, il est bon, mais les paroles troublent mon esprit et me souillent. Que vais-je faire avec une telle musique? Les boissons, le tabac, la drogue, toutes les addictions, le chrétien doit y veiller aussi. Ce qu'on appelle la liberté, le chrétien doit y veiller aussi. Ce qu'on appelle les modèles que nous avons dans la société. Quels sont nos modèles? À qui nous identifions-nous? On ne peut pas juste s'identifier à l'apparence extérieure d'une personne. Parce que si je m'identifie à une personne qui d'apparence extérieure est belle, est bien habillée, que son style me plaît, qu'en est-il de sa moralité? Bref, que Dieu nous aide. On va terminer avec la dernière diapo. Tu vas juste à la dernière diapo. Vas-y encore. Et voilà, je reviens au verset que je vous ai cité au début de cette prédication. 2 Pierre, chapitre 3, verset 17 à 18. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivants sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen.